saison de Le Cubecast, le podcast de Grenoble INP NC Cube. Une fois par mois, notre école d'ingénieurs spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'environnement vous emmène à la rencontre de ses anciens élèves. On vous présentera des profils et des parcours très différents les uns des autres, mais qui sont tous très inspirants. Et nous sommes vraiment fiers de partager avec vous les expériences et les souvenirs de nos diplômés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Olivier Wyss, diplômé en 2004 à l'ENC Cube. Olivier a travaillé pendant 10 ans en tant que technicien supérieur dans le monde du spectacle. Il a souhaité ensuite reprendre ses études et a intégré l'ENC Cube en 2001. Désormais chef de projet au CEA, il nous parle de son parcours, de la reprise d'études et des projets qu'il mène actuellement. Bonne écoute! Bonjour Olivier!
Bonjour Célia.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison de Le Cubecast. Merci d'y participer.
Merci à toi.
Aujourd'hui, on va parler de ton parcours à Grenoble INP NC Cube et parler de toi aussi depuis que tu as obtenu ton diplôme et c'était en 2004, c'est bien ça?
C'est ça, tout à fait.
Alors avant qu'on commence, j'aimerais s'il te plaît que tu te présentes brièvement pour nos auditeurs et auditrices, mais sans parler du côté pro.
Ça marche. Alors, donc, prénom Olivier, âge, je le donne en hexadécimal, 38, parce que ça, comme ça, ça pique un petit peu moins. Je suis plutôt sportif, j'aime beaucoup tout ce qui est sport de montagne, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis installé dans la région. Mm-hmm. J'ai pratiqué le parapente pendant 17 ans, je fais encore du ski de randonnée, de la randonnée en montagne, etc. J'ai toujours été passionné de science, de technologie, d'innovation.
D'accord.
Je suis très bricoleur, je bricole beaucoup. Mm-hmm. Je fais aussi beaucoup de vélo, je suis impliqué dans des ateliers associatifs vélo, je ne sais pas si on en reparlera plus tard, mais voilà. Je vis avec mon chat qui s'appelle Schrödinger.
D'accord.
Comme le chat du physicien.
Tu le mets pas dans une boîte?
Oh, il s'y met tout seul, il adore les cartons.
Voilà,
donc, j'ai pas d'enfant parce qu'en fait, je suis issu d'une famille très nombreuse, donc. J'ai beaucoup de frères et sœurs qui se sont largement chargés de surpeupler la planète. Donc moi, j'ai dit que voilà, je ne ferai pas d'enfant.
Okay.
Voilà, okay. En résumé.
C'est une bonne raison. Bon, bah, écoute, je te remercie pour tout ça. On va parler en fait de ton diplôme, de ton expérience à Grenoble INP NC Cube. Tu as fait un DUT génie électrique et informatique industriel. Puis tu as travaillé pendant 10 ans comme technicien supérieur dans différentes entreprises. Avant de reprendre tes études, et c'est là que tu es entré à Grenoble INP NC Cube en 2001, comment est-ce que tu as eu envie de reprendre tes études après plus de 10 ans de vie professionnelle?
Alors effectivement, après le bac, j'ai obtenu mon DUT de génie électrique. J'avais démarré une année de maths sup que à l'époque j'ai planté parce que voilà, j'ai eu des problèmes personnels à l'époque. C'est l'année où j'ai perdu ma mère et tout, donc j'ai oui. abandonné en cours de route. Mm. Après, j'ai travaillé effectivement dans l'industrie électronique. Ça m'a très rapidement saoulé. Mm. Et à l'époque, j'avais la chance d'avoir des contacts dans le monde du spectacle. Donc, je suis parti travailler dans ce domaine-là.
D'accord.
J'ai même été d'ailleurs travailleur intermittent du spectacle pendant
D'accord.
2 ans.
Ok.
Je faisais de la lumière, de la machinerie scénique. Les 5 dernières années, je commençais à fatiguer un peu. Donc là, j'étais plutôt en bureau d'études pour une société qui était spécialisée dans les équipements pour les salles de spectacle. Ça m'a donné l'occasion de travailler sur des très belles salles comme l'Opéra de Lyon, l'Opéra Comique à Paris.
D'accord,
ok. Théâtre National de Toulouse, le Théâtre National de Martigues. J'ai travaillé aussi à l'étranger, j'ai travaillé à l'Exposition Universelle de Séville en 92. J'étais parti aussi au Gabon installer des équipements scéniques pour le Centre Culturel Français de Libreville en pleine période électorale. C'était assez rock'n'roll.
Ouais, j'imagine.
Et puis je suis arrivé à un stade où déjà je faisais un travail à la fois bureau d'études et chef de chantier. Je faisais presque en fait un travail d'ingénieur, mais avec un salaire de technicien. Et puis le monde du spectacle, c'est un métier pour les jeunes parce qu'on y passe ses week-ends, ses vacances. On n'est jamais en vacances en même temps que tout le monde. Voilà, donc avec ma conjointe de l'époque, c'était pas forcément facile. Donc, j'ai décidé de reprendre mes études.
Je comprends.
Donc, j'ai commencé par partir en Polynésie pendant 6 mois avec un gros paquet de bouquins de physique et de maths sous le bras pour essayer de réviser là-bas.
D'accord.
Et puis, après, j'ai eu la chance, effectivement, d'intégrer le cycle DUT plus 3
ouais.
de l'Institut National Polytechnique de Grenoble à l'époque.
Ouais.
Et j'ai pu rentrer directement en deuxième année à ce qui s'appelait à l'époque l'ENSIEG, qui ensuite est devenu ENSECUBE.
Ok.
Donc cette envie de reprendre tes études, finalement, elle est venue de ton chemin de vie parce que bah tu voulais, c'est une reconversion, enfin quitter ce travail qui n'était plus fait pour toi et puis repartir sur autre chose, peut-être avec des convictions.
Alors bah déjà c'était une évolution parce que c'est vrai que quand tu travailles en tant que technicien audiovisuel, même si mon métier de l'époque, à l'époque je regrette absolument pas, c'était passionnant. Mais bon voilà, l'envie d'évoluer. Mm-hmm. Et puis comme je le disais en introduction, j'ai toujours été passionné de science et de technologie.
Ouais.
Passer un diplôme d'ingénieur pour entamer derrière une carrière d'ingénieur, ça me paraissait tomber sous le sens. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé sur les bancs de l'école à nouveau, à 33 ans.
À 33 ans. Et comment ça s'est passé alors, cette
super
reprise
bien.
D'études? Ouais.
Super bien, j'ai adoré. Il y a plein de gens qui me disent « Oh là là, mais t'as repris les études à 33 ans, t'as du courage et tout. »
C'est pas facile.
J'ai eu un coup de peau extraordinaire. J'avais pu négocier un licenciement économique avec mon patron de l'époque.
Mm-hmm.
Et donc, en fait, quand j'ai repris les études, j'étais au chômage.
Mm.
Et donc, on avait en introduction un an et demi de remise à niveau maths et physique,
mm-hmm.
à raison d'une semaine de cours toutes les trois semaines. Donc, pendant que mes collègues qui, eux, travaillaient... eux, ils venaient prendre une semaine de cours, puis ensuite, ils retournaient bosser deux semaines.
Mmh.
Moi, j'avais une semaine de cours, et puis ensuite, j'avais deux semaines où je pouvais travailler mes cours tranquille et éventuellement faire du parapente. Donc, ça s'est super bien passé.
C'était plutôt sympa.
Et après, donc, du coup, je suis rentré en deuxième année d'école d'ingénieur directement.
Ok.
Et c'est là que je me suis retrouvé avec mes jeunes collègues de l'époque.
Et bien, justement, ça a été quoi ton parcours au sein de l'école ? Filière, association
Alors, je me suis pas trop impliqué dans les associations. Au niveau filière, à l'époque, j'ai fait un truc qui s'appelait production décentralisée et stockage de l'énergie.
D'accord.
Parce que ça permettait d'ouvrir sur les énergies renouvelables qui m'intéressaient particulièrement. J'ai été super bien accueilli par mes collègues de promo. On s'est beaucoup entraidé, donc eux ils m'aidaient plutôt sur les aspects maths physiques pour lesquels j'étais un peu limite de par le fait que j'avais lâché l'affaire depuis pas mal d'années, et puis moi par contre je leur apportais un peu d'aide sur les aspects plutôt technologie grâce à ce que j'avais acquis comme expérience dans l'industrie, et puis du coup on a formé de bonnes équipes, et puis du coup à 33 balais refaire un peu la fête avec des étudiants, c'est vraiment super sympa. Donc en gros pour moi ça s'est vraiment super bien passé et j'ai adoré cette période.
Excellent. Tout ça t'a amené aujourd'hui à être ingénieur de recherche et chef de projet au CEA. Alors, déjà pour commencer, c'est quoi le travail d'un ingénieur de recherche ?
Depuis pas mal d'années, je suis plus chef de projet qu'ingénieur de recherche, hein, clairement. Ingénieur de recherche, en fait, on va essayer de développer des... Alors déjà, si, quand même, un petit mot. Le CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ce qui nous a permis de faire un peu de greenwashing sans changer de papier à lettres. On travaille dans le domaine de la recherche appliquée. C'est-à-dire, en fait, on est le maillon entre la recherche fondamentale et l'industrie. Notre métier, c'est de créer de l'innovation pour aider les entreprises françaises ou européennes à créer de l'emploi en France et en Europe. Donc, dans ce contexte-là, on essaye de développer des nouveaux produits, en l'occurrence, pour ce qui me concerne, dans le domaine des énergies renouvelables. Donc, ça consiste en quoi ? Ça consiste à réaliser des développements, des expériences scientifiques pour montrer que les produits sur lesquels on est en train de travailler sont pertinents et qui fonctionnent bien.
D'accord.
Et ensuite, on va faire le transfert à l'industrie. Donc, d'un point de vue purement pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire éventuellement des simulations. Derrière, on va partir au laboratoire, on va monter des expérimentations pour montrer que nos simulations sont valables.
Mm-hmm.
Puis derrière, on va se faire les rapports qu'on va transférer soit à nos partenaires institutionnels, l'Europe, l'ADEME, l'ANR, alors ANR, Agence Nationale de la Recherche,
mm-hmm.
l'ADEME, l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Énergie,
mm-hmm.
ou à nos partenaires industriels qui sont venus nous trouver pour essayer de développer des nouveaux produits.
Okay.
Voilà, en gros, le métier d'ingénieur de recherche. Et puis, bah, quand t'es chef de projet dans ce domaine-là, bah, tu encadres potentiellement une équipe, une petite équipe d'ingénieurs, ingénieurs et ingénieurs E de recherche, même si malheureusement, dans le monde de l'énergie, des femmes ne sont pas assez représentées.
Oui, et d'ailleurs, on a pas mal d'épisodes qui parlent de ça. Donc, on peut aussi relancer les gens vers les épisodes qui parlent des femmes dans ce domaine.
Mmh.
C'est très intéressant tout ce que tu nous dis. Et justement, ce que j'aimerais, ce serait que tu nous donnes un exemple, puisque tu as fortement contribué à créer une nouvelle plateforme d'essai électrique qui s'appelle Smart Grid. Tu me dis, hein, si je le prononce pas bien, baptisé Grid Control Lab. C'est sur le site du Bourget du Lac en Savoie. Et Raconte-nous quelle utilisation est-ce qu'on fait de cette plateforme, quel va être l'objet de cette plateforme, comment est-ce qu'on va utiliser tout ça?
Alors, cette plateforme donc a pour vocation de travailler sur les smart grids ou les réseaux électriques intelligents.
D'accord.
On en a la version 3 de cette plateforme. Mm-hmm. Moi, j'avais déjà contribué sur les versions, on va dire, 1 et 2.
Ouais.
En fait, sur cette plateforme, on a deux activités principales. La première, c'est le développement de convertisseurs statiques en électronique de puissance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'électricité qu'on utilise tous les jours, on estime qu'à l'horizon 2030, il y a à peu près 90% de cette électricité qui sera passée tôt ou tard par des convertisseurs électroniques de puissance. Par D'accord. exemple, un chargeur de smartphone, c'est un convertisseur statique, toute petite puissance. Un champ photovoltaïque, il produit du courant continu, il faut le transformer en courant alternatif pour être utilisé. Convertisseur électronique de puissance, convertisseur statique ou convertisseur électronique. Il y en a de partout, des convertisseurs électroniques. La variation de vitesse, c'est des convertisseurs électroniques. Ne serait-ce que dans le moindre frigo, machine à laver, il y a des moteurs brushless dedans, il y a des convertisseurs électroniques, il y en a de partout.
D'accord.
Donc nous, on développe ces convertisseurs d'électronique de puissance. Ceux qu'on développe sont destinés principalement à l'exploitation des énergies renouvelables, que ce soit photovoltaïque principalement, c'est le sujet de l'Institut INES dans lequel je travaille, mais aussi ça peut être des batteries, ça peut être des éoliennes, ça peut être des systèmes de recharge pour les véhicules électriques. Donc tout ceci, on va les connecter ensemble pour vérifier après qu'on est capable de construire un réseau électrique qui va bien fonctionner en intégrant tous ces convertisseurs d'électronique de puissance. Donc en gros, on va être capable de créer une maquette de micro-réseaux. Et la nouvelle plateforme qu'on a créée sur le site de l'INES, on est capable de travailler à l'échelle du mégawatt. Donc en fait, on est capable de travailler à une échelle qui soit représentative de ce à quoi sont confrontés nos partenaires industriels. Les premières versions de cette plateforme qu'on avait créée, on travaillait d'abord à l'échelle de la centaine de kilowatts en 2006 quand j'ai commencé sur INES. Mais là, avec le développement exponentiel des énergies renouvelables et puis les besoins de flexibilité du réseau électrique, c'est devenu insuffisant. Mmh. C'est pour ça qu'on a investi dans cette nouvelle plateforme. Et maintenant, on est aussi capable de travailler en haute tension.
D'accord.
Alors, pour mémoire, dès qu'on dépasse 1000 volts en courant alternatif ou 1500 volts en courant continu, on rentre dans le domaine de la haute tension. Donc, ce sont d'autres normes qui s'appliquent. Forcément, des grosses mesures de sécurité pour éviter de tuer nos collègues. Ça peut être pas mal. Et donc, maintenant, on est capable de travailler dans ces domaines-là.
Et la notion de smart, c'est parce que ça va se gérer tout seul ?
Alors, justement, non. Le problème, c'est qu'effectivement, les énergies renouvelables sont variables, voire intermittentes, alternance jour-nuit. Les consommations sont aussi variables. On a la pointe du matin, la pointe du soir. Ça, c'est des phénomènes qui sont assez connus. Et donc, il faut garantir l'équilibre du réseau. On a des degrés de liberté, par exemple les charges qui sont délestables ou pilotables, les pompes à chaleur, les véhicules électriques, tous ces aspects-là. On a les systèmes de stockage stationnaire. Donc l'objectif, c'est de développer ce qu'on appelle des Energy Management Systems et des Power Management Systems. Alors les Power Management Systems vont garantir l'équilibre électrique du réseau et sa stabilité. Les Energy Management Systems vont permettre d'optimiser les énergies qui ont le meilleur merit order, pour avoir un réseau qui soit le plus vertueux possible. Donc, on travaille aussi sur ces aspects-là. Et après, on teste tout ça sur des maquettes à échelle, presque à l'échelle 1.
D'accord.
Au moins à l'échelle 1,5 ou 1/10 quand on parle de grands réseaux.
Bon, écoute, c'est très clair. Je te remercie. Pour rester en fait sur ces projets, sur tes projets à toi, tu nous as parlé tout à l'heure de projets européens.
Oui.
Et puis, je sais que il y a aussi des projets d'aide au développement pour des pays émergents. Est-ce que tu peux rapidement nous donner un exemple ?
Oui. Alors, par exemple, projet européen, c'est un exemple typique, c'est le projet Taïgon. Donc là, en fait, on est en train de travailler sur les réseaux de l'avenir. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la guerre des courants entre Edison et puis Westinghouse et Tesla dans les années... début des années 1900,
ouais.
En fait, la guerre des courants redémarre, et donc le projet Taïgon, d'accord, on est en train d'essayer de développer une maquette de micro-réseaux en moyenne tension, courant continu.
D'accord.
Pourquoi courant continu ? Parce que de plus en plus, alors comme je le disais, on a tous les convertisseurs électroniques, ces dernières décennies, il y a eu le développement des semi-conducteurs qui permettent maintenant de faire des convertisseurs courant continu assez facilement. Les systèmes photovoltaïques produisent en courant continu, les batteries, c'est du courant continu, les voitures électriques, on les charge de plus en plus en courant continu. Mm-hmm. Donc créer des nouveaux réseaux de distribution en courant continu, ça fait sens.
D'accord.
Pourquoi ? parce que pour la même tension entre une ligne électrique en courant continu et une ligne électrique en courant alternatif, on peut doubler la puissance qui transite dans cette ligne, donc c'est vraiment intéressant. Et en plus, comme on a des convertisseurs électroniques de chaque côté, au lieu de subir les flux de puissance, on peut les maîtriser. Donc ça présente pas mal d'avantages. C'est très schématique hein, ce que je viens de te dire, mais en gros, voilà. Donc ça, c'est le projet Tygon. En parallèle de ça, donc là, on est sur des projets qui sont très technologiques, qui sont souvent assez amont. On a la chance de pouvoir travailler en collaboration avec des pays émergents, par exemple le projet Casasol. Là, on a développé un centre de compétences dans la ville de Bignona, en Casamance. On y a été au début pour des raisons purement politiques, mais nous, ça nous fait extrêmement plaisir parce qu'on travaille en fait en collaboration avec des gens qui partent en gros de zéro dans le domaine de l'énergie et qui ont besoin, comme tout le monde, d'avoir de l'énergie. Donc là, c'est des projets qui, pour nous, font vraiment sens et dont on va voir l'application quasi immédiate. Alors, il y a deux façons de faire pour ce genre de collaboration. Soit on arrive là-bas en mode européen, vous inquiétez pas les gars, on va vous installer des trucs, vous allez voir, ça va être super bien. Puis en général, ça marche pas parce que on forme pas de gens pour la maintenance et tout. Ou alors, on essaye de leur transmettre de la compétence.
C'est de la formation. Vous allez les former.
Voilà, de la formation. On leur a fourni du matériel pour qu'ils puissent tester des produits. On leur a appris à s'en servir. Et du coup, voilà, il y a ce centre Casasol maintenant qui est créé à Bignona, en Casamance, et qui commence à générer du business local sur l'industrie photovoltaïque. Et ça, pour nous, c'est vraiment gratifiant.
D'accord. Ouais, excellent. Bravo. Bon, en tout cas, tout est très clair. Je te remercie beaucoup de m'avoir expliqué tout ça comme ça. Moi, j'ai quand même l'impression, enfin, je ressens que tu es très passionné par ton travail. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail?
Ce qui me plaît le plus, c'est clairement la créativité. Parce que là, en gros, c'est un métier, on ne fait jamais deux fois les mêmes trucs, en fait. Il y a beaucoup de, forcément, l'innovation qui dit innovation dit créativité. Il y a beaucoup de rencontres. Quand on travaille avec sur des projets européens, voilà, on va rencontrer des partenaires industriels ou institutionnels qui font partie de toute l'Europe. On voyage, voilà. La Casamance, on a dû y aller pour effectivement faire la formation, faire le repérage au début, discuter avec les gens, trouver les bons partenaires. Et puis, à la finalité, c'est vrai que autant avant, quand j'étais dans le monde du spectacle, la finalité, c'était d'avoir un public qui sortait de la salle avec une banane sur la figure. Ça, c'était sympa. Dans le domaine des énergies renouvelables, bah voilà, on se dit qu'à notre modeste niveau, on contribue un peu à essayer de régler à la fois les problèmes d'accès à l'énergie pour les gens qui n'en ont pas et d'essayer de leur procurer une énergie qui ne soit pas trop émettrice de CO2, qui soit assez vertueuse.
Tout à fait.
Voilà. À titre personnel, moi, j'ai jamais été branché par la grosse carrière et faire plein d'argent. Moi, j'ai toujours cherché à avoir un métier dans lequel je m'amuse et puis qui ait une certaine utilité pour la société.
Mais en tout cas, tu as l'air de t'amuser, donc ça va.
Ah ouais, bah là, je m'éclate. Alors, il y a des côtés un peu lourdingues, mais...
Bah comme partout.
Comme dans tout métier, forcément.
Est-ce que, justement, tu as rencontré des difficultés, des obstacles, et comment est-ce que tu as pu les dépasser?
Alors, bah, dans le domaine de la recherche, tant fondamentale que appliquée, les obstacles principaux, souvent, c'est la recherche de financement. Donc ça fait partie du côté un peu moins agréable de ce métier. C'est que souvent, on passe un peu de temps à monter des dossiers, à aller les défendre, donc pour essayer de trouver de l'argent pour pouvoir travailler. Dans ma carrière, honnêtement, j'ai eu plutôt de la chance. J'ai pas rencontré de grosses difficultés. À mon âge, qui commence à être un peu avancé, maintenant, ce que je peux avoir comme difficulté, c'est la remise à niveau.
33, tu nous as dit tout à l'heure.
38 en hexadécimal.
Voilà, oui.
Donc, je laisserai les gens de NSCUP faire la conversion. Normalement, ils sont censés être capables.
Ouais.
Voilà, donc la difficulté, souvent, c'est la mise à jour des connaissances. Parce qu'effectivement, quand on passe en tant que chef de projet un peu de temps dans les dossiers, des fois, il arrive qu'on se déconnecte un peu de l'aspect purement scientifique qui nous intéresse plus. Et puis moi, je vois par rapport à nos jeunes collègues Thésard et Thésarde qui débarroulent dans la maison, sur les aspects purement scientifiques, ça m'arrive souvent d'être un peu largué. En plus, qui dit réseau smart grid dit souvent aussi outils digitaux. Et voilà, les gens de ma génération, sur les outils digitaux, si on lâche l'affaire 5 minutes, on se fait dépasser en moins de 2. Hein. Donc, faut faire attention à ça.
C'est vrai. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants et aux étudiantes qui sont actuellement à l'école? Alors, c'était intéressant que tu nous parles de cet aspect de financement quand on veut de la recherche, parce que c'est vrai que c'est une très grosse partie, on en a parlé aussi dans d'autres épisodes. Tu as peut-être, je sais pas, d'autres conseils ou des choses à dire justement à ces étudiants et à ces étudiantes?
Des conseils, j'en aurais deux. Le premier, c'est surtout à destination des jeunes femmes.
Oui.
Engagez-vous dans le domaine de l'énergie. Le domaine de l'énergie, c'est un domaine qui est absolument fondamental. Les hommes sont surreprésentés. Et l'énergie, c'est un domaine qui est éminemment stratégique. Donc, il faut vraiment qu'on ait la parité dans ce domaine-là. Si on avait eu la parité dans le domaine de l'énergie par le passé, on aurait peut-être pris des décisions sur la politique énergétique de la France, de celle du monde en général, on aurait peut-être été nettement plus pertinente. Un autre conseil peut-être, c'est, quelle que soit la carrière à laquelle vous vous destinez, il faut absolument travailler votre pouvoir de conviction. Mm-hmm. C'est loin d'être simple. Moi, je suis un ancien timide, donc même si maintenant j'arrive plus facilement à parler en public, mais il y a toujours quelqu'un à convaincre, quelle que soit la carrière. Que vous vouliez monter une start-up, faire une grosse carrière dans l'industrie, travailler dans le domaine scientifique, il y a toujours des gens à convaincre. Que ce soit un financeur, un comité scientifique, un partenaire industriel, ou même ne serait-ce qu'au sein de votre équipe.
Tout à fait.
Il faut convaincre les gens. Donc ça demande deux choses. Déjà, c'est d'être capable de s'exprimer correctement. Si vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à aller prendre des cours de théâtre. Et aussi, il faut faire preuve d'empathie. Il faut toujours être capable de comprendre ce que l'autre que vous avez en face de vous, il attend.
Absolument.
Et ça, c'est vraiment indispensable. Et puis, je pense que c'est d'ailleurs général à tous les métiers.
Oui.
Mais moi, je sais que dans le domaine de la science, ne serait-ce que pour convaincre les financeurs, et puis aussi de montrer que notre travail est intéressant et pertinent, il faut être capable de convaincre. On peut être le meilleur du monde dans son job, si on ne sait pas convaincre, ça ne marche pas.
Et puis comme tu l'as fait aussi tout le long de cet épisode qui touche à sa fin, de se mettre aussi à la hauteur de son interlocuteur et puis d'expliquer les choses simplement, parce que même si vous êtes tous des scientifiques, que ce soit toi ou ceux qui nous écoutent, ou des ingénieurs, il faut aussi savoir apporter le bon message à l'interlocuteur.
Mais je suis complètement d'accord. Effectivement, surtout dans le domaine scientifique ou dans le domaine technologique, on aborde vite des sujets qui sont assez complexes.
Il faut
vraiment être capable de vulgariser si on veut être compris par son interlocuteur. Donc, ça fait aussi partie de la démarche de conviction qui est très importante.
Alors, la question signature, pour terminer cet épisode avec toi, de cette saison, si tu devais, s'il te plaît, nous raconter un souvenir de l'école, peut-être le meilleur, lequel ça serait ?
Comme tu l'as compris, donc moi j'ai un parcours qui est assez particulier,
oui.
Parce que j'ai réussi à retourner à l'école donc à 33 ans.
Oui.
Moi je dirais que le meilleur souvenir de l'époque, alors hormis les fêtes étudiantes auxquelles j'ai pu participer, c'était vraiment sympa. C'est vrai que le truc qui m'a vraiment marqué, c'est la première fois que je suis retourné en amphi.
Ouais.
Et c'est vrai que souvent quand tu sors d'études, les amphis, voilà, t'en as marre, ça te saoule et tout. Mais par contre, quand t'as eu des responsabilités de travail avec encadrer des gens, trouver des sous et compagnie, et puis que tu te retrouves sur les bancs de l'école avec tes collègues étudiants, c'était le bonheur. C'était vraiment le bonheur. Je me suis dit que j'allais à nouveau apprendre des choses, que j'allais passer deux ans super, parce que je suis rentré directement en deuxième année d'école. Et donc, j'ai adoré ce moment-là.
Ouais.
Et j'ai vraiment pris du plaisir à ça. Donc
Excellent.
Ça, pour moi, c'était le souvenir qui m'a vraiment marqué dans mes études.
Mais j'en étais sûre que tu allais dire ça.
Je suis prévisible à ce point-là.
Non, mais tu vois, c'est comme ça que je l'ai imaginé, parce que effectivement, quand on a une carrière, comme tu dis, retourner sur les bancs de l'école, c'est quand même quelque chose. Et je pense que aussi, vu la passion que tu mets dans ton métier, et ça peut que être un moment marquant.
Ouais, c'est clair. Non, vraiment, j'ai adoré. Et puis s'il y a des gens qui ont l'occasion de voir ce reportage et qui ont un parcours un peu comme le mien, qui sont partis dans l'industrie et qui ont envie de reprendre l'école, si vous avez la possibilité, faites-le, c'est génial.
Ouais, absolument. Eh ben merci beaucoup, merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions.
Avec plaisir.
Bonne continuation pour la suite, à très bientôt.
Ça marche, merci.
Merci d'avoir écouté le CubeCast et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre d'anciens étudiants qui vous raconteront leur parcours. Pour faire vivre ce podcast, n'oubliez pas de le liker, de le partager et d'en parler un maximum autour de vous. À bientôt !